EPRA, EPRA.
Terre fidèle qui est la plus éloignée de nous.
Le recrutement de travailleurs destinés aux usines d'armement.
Parce que si on allait chez nous, on travaille un jour, on gagne 12,50 €. Et si on demande à malister, on gagne 10 €.
Sur lui, il y a une procédure d'expulsion qui est en cours.
Un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins augmenté encore de 50%.
EPRA, EPRA, échange de production radiophonique.
Chaque personne doit passer un test.
Émission de reportage.
J'ai rencontré quelques pathologies assez rares qui n'existent pratiquement pas en France.
On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'étrange au fait qu'on n'en parle pas.
Sur Divergence FM 93.9.
Bonjour, c'est l'émission EPRA, donc échange de production radiophonique de ce lundi 21 juin, avec deux sujets aujourd'hui. On va faire rapide puisque je n'ai pas de papier sous les yeux. On va parler dans un premier temps de l'APIEU, l'atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain. Alors j'avais déjà fait un petit sujet sur l'APIEU pour présenter toutes leurs actions. Et là, il se trouve que j'ai assisté à l'une des actions, ou au moins une réflexion, entre des jeunes du quartier Gély qui tentaient d'organiser leurs vacances d'été.
Toi, c'est le sport que t'aimes bien.
Le sport et manger.
Et pourquoi la pétanque alors?
Parce qu'on aime la pétanque. Vas-y, laissez parler mon coéquipier.
T'aimes bien la pétanque?
On est les plus forts de figure là.
Donc vous organisez le concours pour gagner, c'est ça?
Ouais, mais nous, quand il y a les petits, c'est nous qu'on gagne. Mais quand les crânes s'inscrivent, on perd. Ils sont plus forts que nous.
Il sera question donc de pétanque, mais pas seulement, aussi de voile. Et puis on pourra écouter, en même temps que les enfants, des extraits du film de Marcel Pagnol, Fanny. Dans le deuxième sujet, il sera un peu moins sexy, puisque nous avons suivi Hélène Mandrou, non qu'elle ne soit pas sexy, mais qu'en tout cas, il y avait moins d'enfants, ça c'est sûr. Elle est allée du côté du quartier Mausson pour faire la visite de quelques associations. Alors ça fera l'occasion aussi, de rencontrer ces associations pour savoir ce qu'elles font, parce que le tissu associatif est très important à la Mausson, et c'est ce que dira aussi le maire.
Et tu es d'où, de Tunis, toi? Tunis même?
Djerba.
Oh. Et tu n'es pas resté à Djerba? C'est magnifique, Djerba. Là où je suis allée cette fois, ce qui m'a le plus impressionné, c'est Djem. Djem, quand tu découvres nos arènes de Nîmes à côté, c'est... Qu'est-ce que c'est? Vous avez des arènes romaines à Djem, c'est extraordinaire. Ces arènes, elles sont... Les arènes de Nîmes à côté, c'est rien. Bon, je vous laisse travailler. C'est bien. Au revoir. Merci.
Évidemment, l'ensemble du reportage ne sera pas aussi anecdotique que ce petit extrait où elle était avec des jeunes femmes maghrébines qui apprennent le français dans les locaux de l'association Tinane. Voilà, c'est l'émission EPRA, c'était le sommaire. Et puis, il y a aussi de la musique dans cette émission pour respirer un peu. Et on va aller du côté du Mexique, presque. Enfin, un petit passage entre les États-Unis et le Mexique avec Calexico. Le groupe Calexico, alors si c'était quand même un peu mexicain, mais je crois que la chanteuse c'était Amparo Sanchez qui est bel et bien espagnole. C'était l'occasion de se remémorer eh bien, un petit France-Mexique de football puisque c'est l'actualité actuellement. Alors nous, eh bien, on va aller du côté des jeunes du quartier Gély, donc quartier de Montpellier à dominante gitane, qui rencontrait Mercedes, qui est animatrice chargée de les accompagner pour eh bien, leurs grandes vacances plutôt même. Et donc c'était un jeudi après-midi, il faisait chaud à cette époque, et oui. Et les jeunes proposaient parcours aventure, escalade, voile, tournoi de pétanque, voilà l'ensemble des propositions de ces jeunes qui ont entre 8 et 13 ans. Nous avons tendu nos micros à Mercedes et aux jeunes, et on se retrouve après. Bonjour Mercedes, vous êtes animatrice à l'APIEU, l'association APIEU. On est ici à la Maison pour tous Malherbe, dans le quartier Saint-Gély à Montpellier. Voilà, on est en fin d'après-midi, il est passé 16h30. Alors qu'est-ce qui se passe ici avec, avec les enfants qui sont présents ?
Eh bien, l'APIEU intervient sur le quartier de la cité Gély deux jours dans la semaine, qui sont le mardi à l'école pour faire du jardin, et le jeudi sur ce que j'appelle les jeudis de Gély, et qui est surtout « Je monte mon projet ». Donc, c'est-à-dire qu'on accueille les jeunes, et s'ils ont des propositions, des idées de projet, eh bien, c'est un lieu et un moment sur lequel on peut commencer à l'initier.
Alors, ben justement, qui veut parler des projets que vous avez déjà réalisés ? Alors, Laurie, qu'est-ce que vous avez fait comme projet ici, enfin, toi particulièrement ?
Eh ben, on a fait un film comme quoi il y avait deux groupes, une gitane et une autre française, quoi. Et à un moment, à chaque fois dans l'école, on se battait tout le temps, on se disputait. Et après, quand on rentrait en classe, il y en avait une qui copiait sur l'autre. Après, ils se disputaient encore et tout. Et le maître, il nous envoyait chez la directrice. Après, la directrice a convoqué les parents, tout ça. Et à un moment, il y a eu les deux filles qui se sont disputées, elles sont pardonnées, quoi. Et après, il y a eu deux autres filles, elles sont allées au soutien scolaire et elles ont trouvé une solution comme quoi on pourrait s'arranger. Et à un moment, la fille qui nous a invités à son anniversaire, on a fait une fête, tout ça, on a dansé, tout ça. Et après, à la finale, on s'est pardonné et on est venus amis.
Qu'est-ce que t'en as pensé du film ? Parce que là, aujourd'hui, tu l'as vu. Il était bien, il était pas bien, c'était ce que tu attendais.
Ça va, c'était bien, mais à un moment, il y avait plusieurs filles qui rigolaient, donc ça m'a pas trop plu, quand même, des fois.
C'était pas assez sérieux.
Ouais.
Et alors, aujourd'hui, là, vous êtes tous là, est-ce que vous avez des idées de projet ? Parce que c'est ça, la discussion aujourd'hui, c'est savoir ce que vous allez faire aux prochaines vacances ou un week-end. Quelqu'un a des idées ?
Qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour cet été ?
Ouais.
Ben ça, des apprentissages de voile.
Voilà, la voile et quoi d'autre ?
Et après, je sais pas.
Ben, on a prévu de faire... l'année dernière, déjà, on avait initié un premier stage de voile, chose qui n'était pas possible auparavant. Donc tous les enfants ont pu passer, qui ont participé, ont pu passer leur brevet de natation. Et ensuite, eh bien, ils ont pu faire de la voile. Donc cette année, on va renouveler l'expérience. Enzo, ici présent, était très bon barreur. Donc j'espère qu'il va continuer un peu dans cette voie. C'est une activité quand même assez intéressante, une belle découverte. Et donc on va continuer à travailler un petit peu sur l'environnement. Et on va aussi profiter du dispositif de la CLJ, donc le Centre de loisirs des jeunes de la Mosson, qui nous accueille tous les ans. Et là, on peut s'initier, enfin, ils peuvent s'initier au kayak, bon, on fait différents sports, et à l'environnement. Donc cette année, l'année dernière, déjà, on avait prévu un atelier environnement, donc tout ce qui est découverte du littoral. Et cette année, on va renouveler l'expérience avec découverte du littoral de nouveau. Donc les coquillages, les plantes. On n'est pas très loin de la cathédrale de Maglone, aussi à découverte du patrimoine. Voilà, donc on va proposer un peu ce genre d'activité.
Oh, Panisse ! Oh,
oh, c'est César !
Oh, monsieur Brun ! Comment ça va ?
Ça va, bien ?
Ça va, monsieur Brun ? Qu'est-ce que vous achetez des voiles ?
Ah oui, je fais choix d'une voilure pour mon bateau.
Mmh. Un bateau ? Vous avez acheté un bateau ?
Eh oui, j'ai acheté le Pitalugue, sur les conseils de maître Panisse. Oui.
Le Pitalugue ? Le grand canot blanc à Toulon, comme ça, là ?
Oui. Vous le connaissez ?
Ah, ben je comprends que je le connais, mais tout le monde le connaît ici.
Allons, César !
Comment tu l'as pas averti ?
Mais de quoi ?
Non, écoutez, monsieur Brun, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il est un peu jaloux.
César est jaloux ?
Non, le bateau est jaloux. Ça veut dire qu'il penche facilement sur le côté, vous comprenez ?
Et il penche fortement ?
Ah non, monsieur Brun,
non.
C'est-à-dire que quand on monte dessus, ben il chavire. Oh, mais il fait pente au complet. Sitôt qu'il a la quille en l'air, vous êtes tranquille, vous risquez plus rien.
Mais dites donc, ça lui arrive souvent ?
Mais non, monsieur Brun, mais non.
C'est-à-dire qu'il est connu pour ça depuis ici jusqu'à la Madrague, on l'appelle le sous-marin.
Toi, Enzo, t'as déjà participé à un stage de voile l'an passé. Comment ça s'est passé ? C'était une découverte ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Oui, c'était bien, c'était un truc nouveau, comme on dit. Ça a permis de voir un autre sport, quoi.
Et la journée, ça se déroule comment ? Enfin, parce qu'on sait rien quand on arrive, j'imagine, le matin. Et après, qu'est-ce qu'on apprend durant la journée ?
Ben, on apprend au fur et à mesure à monter les voiles, attacher des trucs pour faire avancer le bateau. Et moi, ce que j'ai appris, c'est à conduire le bateau.
T'as barré l'an passé, j'imagine que là, tu vas vouloir barrer à nouveau pour cet été ?
Ouais.
Et ça va durer combien de temps ?
Donc là, j'ai prévu, parce qu'on peut faire ces stages grâce à l'association d'aide à l'enfance, donc Vélacoupe, qui nous permet donc de faire ces stages pour nous gratuitement. Donc les jeunes n'ont pas à payer non plus. Et donc on a prévu, on va avoir 10 journées, mais pas que sur la cité Gilly. Il va y avoir Croix d'Argent qui va participer, et Petit Bar aussi qui vont participer sur différents temps. Avec différents animateurs.
Et là, pour Enzo, ça va être combien de jours ?
Pour Enzo, s'il le souhaite, ça peut être 4 jours de voile. Plus le kayak, plus après. Et puis ensuite, derrière, on va voir un petit peu, parce que certains vont sûrement partir en vacances, mais ils ne le savent pas encore. Donc on va voir un petit peu les enfants qui restent sur le quartier. Et on fera aussi avec les enfants qui restent sur le quartier, qui ne partent pas en vacances.
Alors toi, par exemple, Enzo, si on prend l'exemple de l'an dernier, à moins que tu saches ce que tu vas faire exactement cet été, ce stage de voile, ça représentait quoi dans tes vacances ? C'était quelque chose d'inhabituel, quelque chose que tu attendais impatiemment ?
Ouais, c'était inhabituel. Je n'avais pas l'habitude de faire de la voile, moi.
Et pour le coup, le reste du temps, tu fais quoi l'été ? Comment ça se passe, les activités ?
Ben, je sais pas trop, ça dépend de ce que fait Mercedes, et sinon, moi, je reste au quartier.
Donc ça veut dire que tu ne quittes pas forcément le quartier ? Donc c'est pour ça que tu es attentif à ce que propose Mercedes et la Pieux ?
Oui, à part aller à la mer ou à la piscine, je fais rien d'autre.
Pourquoi ce bateau chavirerait-il systématiquement ?
Monsieur Brun, ce bateau, il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Alors si vous poussez la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau, il se devire.
Mon cher César, tes plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, M. Brun, ne l'a pas fait faire sur commande. Il ne l'a pas payé au prix d'un canon inchavirable. Il a payé 1500 francs. C'est une occasion.
Vous ne trouvez pas qu'à ce prix-là, même avec les défauts, ce soit une belle occasion ?
Oh oui, c'est une belle occasion de se noyer.
Sarpagnan, Panisse, vous connaissez pas bien ce bateau et c'est vous qui me l'avez fait acheter.
Oui.
Franchement, est-ce que ce bateau chavire ?
Mais mon cher M. Brun, mais tout chavire dans la nature.
Je crois que tu as participé donc, à un projet très très proche de Koh-Lanta. Tu peux nous parler de ce projet parce qu'il y avait plusieurs étapes.
Oui, c'était un peu comme Koh-Lanta, sauf que cette fois c'est nous, c'est des petits. Il y avait plusieurs épreuves, de la nage, de la course, de l'escalade, des trucs comme ça.
C'était quoi la première journée d'épreuve ? Qu'est-ce que vous faisiez par exemple ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Est-ce que tu t'en souviens déjà ?
Non, je ne me souviens pas très bien. Non.
Alors qu'est-ce qui t'a marqué finalement ?
Je sais pas trop, il y a tout qui était bien. Une petite préférence pour l'escalade. Moi, ça s'appelle au rocher de Maguelone, la Via Ferrata, l'acrobranche.
Donc il y avait acrobranche, escalade, il y avait du kayak, je crois.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ?
La course d'orientation, il me semble.
Et vous étiez combien à le faire ?
Sur le Koh-Lanta, donc, il y a eu un groupe de 10 jeunes qui étaient constants. Et ensuite, il y en a eu 6 autres qui sont venus sur certaines activités et pas sur d'autres. Donc on a eu en tout à peu près 16 jeunes qui ont participé à ces activités.
Alors les jeunes participent, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire s'ils le veulent, ils viennent, si vous n'allez pas les forcer forcément, c'est eux qui proposent des projets, là pour le coup, pour tout ce qui était Koh-Lanta, le kayak, le côté aventure, est-ce que c'est eux qui ont choisi de faire ça ?
C'est à l'initiative de Lucas, donc le frère d'Enzo, qui avait comme objectif savoir si, ses copains avaient le cœur pur. Voilà, donc avec cette idée de solidarité derrière, donc on a discuté un petit peu pour savoir ce que ça voulait dire. Et donc c'était surtout au niveau solidarité, courage, voilà, aller au-delà de ses limites. Voilà, c'était ce que ça représentait pour lui. Donc on a effectivement avec Lucas, parce qu'on ne pouvait pas dévoiler l'ensemble des activités aux autres. Et Lucas, qui voulait participer, ne pouvait pas non plus connaître toutes les activités ni toutes les épreuves. Donc on a fait déjà une première approche sur ce qu'il ne voulait pas. Et donc après, tout le reste était disponible pour pouvoir faire le Koh-Lanta.
La solidarité, ça s'exprimait comment? Est-ce qu'il y avait des moments où il fallait vraiment être unis? Est-ce qu'il fallait compter sur les autres?
Oui, il faut savoir travailler en équipe quelquefois.
Mais tu as des exemples précis?
Sur le coup, là, non.
On avait le bateau. Le bateau, il faut être solidaire. C'est une équipe entière. Si le barreur ne fait pas ce qu'il faut, s'il ne donne pas les bons ordres, si les coéquipiers ne font pas ce qu'ils ont à faire au niveau des voiles, eh bien, on perd du temps, surtout qu'on a fait une régate. Donc, on avait deux équipes, on a fait donc une régate. Et l'essentiel, c'était, avant de gagner la régate, c'était vraiment d'être unis pour pouvoir avancer. Après, j'ai pu constater, moi, de mon côté, une belle solidarité au niveau de l'acrobranche. On avait certains, donc, les plus petits, puisqu'on a eu des enfants qui ne partaient pas en vacances, qui avaient 8-9 ans et qui ne pouvaient pas participer à toutes les activités. Mais lorsqu'ils ont été présents, par exemple, sur l'acrobranche, eh bien, les plus grands ont été vraiment très, très consciencieux. Ils ont fait très attention pour s'assurer qu'ils puissent passer les épreuves sans se sentir isolés. Voilà, donc ça aussi, ça a été bien repéré. Et d'ailleurs, ça a été noté.
Tout le monde avait des notes, les groupes avaient des notes selon...
Au niveau individuel et collectif. Voilà, il y avait des notes qui étaient individuelles. Par exemple, on a un jeune qui est Michael, Enzo a fait de même, mais Michael était très très proche des plus jeunes et faisait vraiment attention de les encourager, de les accompagner, parce que lui se débrouille très bien à l'acrobranche.
On a tendance à dire, pour ce qui est du système scolaire, que les notes peuvent un peu brider, humilier. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi ou pas du tout?
Là, ce sont eux qui souhaitaient être notés, puisqu'ils pouvaient les partager ensuite. Il faut bien des notes, on ne peut pas juste départager comme ça. S'ils veulent qu'il y ait un gagnant et pas un perdant, parce que en fin de compte, toute l'équipe a gagné, tous les jeunes ont gagné, puisqu'ils ont vraiment profité de leurs vacances. Donc, voilà.
En tout cas, ce n'était pas seulement l'expo sportif qui était noté, c'était aussi comment ils s'entendaient entre eux, comment ils s'aidaient, ainsi de suite.
Tout ce qui comporte du vivre ensemble. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Au prime abord, c'est le vivre ensemble et pouvoir partager avec les autres. Ça a été une semaine pendant l'été. Ensuite, on a eu un autre moment où c'était en Garrigue, puisque ça s'est déroulé sur trois différents territoires. Donc en Garrigue, et là on était à Saint-Bosile-de-Puytois, où là ils ont fait de la Via Ferrata, on a fait de la randonnée, et puis découverte de la flore. Et ensuite, on a aussi visité la grotte des Demoiselles. Et ensuite, on a eu une autre journée qui s'est déroulée en ville, avec visite du théâtre, le musée, et puis un jeu de piste en ville sur le patrimoine.
Saenzo, tu y as participé aussi à cette journée en ville ou pas?
Je crois que oui.
Tu te souviens où est-ce qu'on avait mangé? Qu'est-ce qu'on vous avait fait croire?
On nous a fait une blague, nous faire croire qu'on ne devait pas manger de la journée. En fait, on nous a amenés dans un restaurant.
Donc voilà, on leur a demandé qu'on n'avait pas mangé toute la journée. Ça faisait partie du Koh-Lanta, puisque généralement sur ce type d'émission, eh bien, il y a aussi celle-là. Donc on leur a fait croire qu'ils ne devaient prendre que de l'eau et puis pour le reste, ils ne mangeraient pas. Mais on les a amenés dans un restaurant indien.
Un Koh-Lanta où les épreuves, c'est visiter un théâtre, visiter le musée. C'est aussi un peu inédit. Il paraît que c'est toi qui es à l'origine du Koh-Lanta, Lucas.
C'est à partir d'une sortie qu'on avait fait, je ne sais plus où, et je m'ennuyais. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse un genre de Koh-Lanta. Et après, j'ai donné l'idée à Mercedes.
Et après, comment ça se passe avec Mercedes? Une fois que tu apportes l'idée, de quoi vous discutez? Si c'est faisable, si ce n'est pas faisable, comment ça se passe?
On discute des horaires, de ce qu'on va faire. Et voilà, en fonction des jours.
C'était à la hauteur de ce que tu attendais?
Ça s'est bien passé. Avec pratiquement tout le monde, et tout s'est bien déroulé.
Et tu as d'autres projets ? Alors, parce que tu as déjà trouvé un projet, Koh-Lanta, ça c'était l'an passé. Est-ce que toi, tu as d'autres projets en tête ? Parce que finalement, j'ai l'impression que tu peux les réaliser.
Et je sais pas. On réalise des fois des concours de boulot. Je sais pas, peut-être que cet été, on va en refaire un.
Ça, c'est pas avec moi, mais on peut effectivement le voir si c'est les plus petits, mais on peut voir effectivement pour organiser un petit concours de boules. Mais après, effectivement, il y a d'autres personnes sur le quartier qui organisent des concours de boules.
Ah, toi, tu veux parler alors. Alors, ton prénom ?
Dawson.
Toi, t'as des projets en tête, c'est ça ?
Oui, je voulais faire un Koh-Lanta avec Mercedes encore, mais mon cousin l'a déjà prévu. Et moi, mes projets que j'ai faits, ça a été des concours de boules dans le quartier. Et je voudrais organiser un jour un concours de foot. Qu'on fasse des sports, centre contre centre, qu'on joue au foot, qu'on fasse des boxe, du judo, tout ça.
Toi, c'est le sport hein, que t'aimes bien.
Ouais. Le sport et manger.
Et pourquoi la pétanque, alors ?
Parce qu'on aime la pétanque. Hein. Vas-y, laissez parler mon coéquipier.
T'aimes bien la pétanque ?
On est les plus forts de Vigoro, là.
Donc vous organisez le concours pour gagner, c'est ça ?
Ouais, mais nous, quand il y a les petits, c'est nous qu'on gagne. Mais quand les crânes s'inscrivent, on perd.
Ils sont plus forts que nous. Parce que le concours, en fait, il est pour tout le monde. Il est ouvert à tout le monde, c'est ça ?
Ouais. Il y a des limites, quand même. Non, mais nous on dit, admettons, de 6 à 13 ans, et eux, il y a des gens de 17 ans qui viennent. Ils ne respectent pas les règles.
Et ça se passe en journée ? Ça se passe en soirée ? Il y a quelque chose à gagner ?
À gagner, il y a, admettons, nous, on a 15 euros. On prend 5 euros, 2 euros 50 chacun. Et après, il y a 10 euros. Et le gagnant, il gagne 10 euros.
Je mesure.
Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Pardon, c'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule.
Aïe. Il est à moi. Alors, je tire.
C'est qu'est-ce que tu ferais, c'est moi ?
Silence !
Vous voyez pas que vous risquez de troubler le tireur ?
Et d'autres projets en vue, alors ?
D'autres projets en vue ? Je sais pas. Plus grand, moi, je vais travailler à l'école, mais... Ah. Attends, on sait jamais si nous... Nous deux, là, on devient fort, mais professionnel de boulot. Professionnel de boulot.
Donc c'est sérieux, la pétanque, c'est...
Oui, très sérieux.
Respecte le tricheur, hein. Il a enlevé ma boule parce qu'il a fait 4 pas, tiens.
Moi, j'ai fait 4 pas.
Oui, monsieur, tu as fait 4 pas, oui, monsieur. Et même 5, peut-être.
Bon, alors, voyons, César, mais moi, je te jure...
Et moi, je te jure que je fous le camp. Eh bien, les jolis, votre jeu de la cabane, ça commence par une volerie et ça va finir par un empoisonnement dans une guérite.
César.
Quoi, César? Je l'ai vu, la bouillabaisse que prépare ta femme. Je n'en aurais pas à manger à mon chien. Et encore, j'ai pas de chien. Hein.
Oh.
Parmi tous ceux qui sont là, est-ce que quelqu'un a des projets en tête?
Vous parliez, les filles, de faire un genre de petit Koh-Lanta. T'as pour fille, c'est ça ?
Je voudrais vas-y, un garçon, quand même, des garçons. Puis des garçons.
Ouais, mais genre vas-y. De notre âge, hein.
Lucas, il pourrait venir.
L'escalade, on pourrait faire. Hein. J'ai une idée. Mais genre monter haut, et voilà. Après, il y a plein de choses aussi qu'on peut faire, mais voilà. On pense pas de suite, hein.
Donc là, vous avez combien de temps pour y penser ? Vous avez encore un petit moment avant l'été pour y penser ?
Ouais.
Vous avez un petit moment parce que c'est jusqu'au mois de juin. Après le mois de juin, c'est les vacances. Donc tout ce qui est organisé, il faut l'organiser maintenant.
Et voilà, nous n'y étions pas prêts. Donc voilà, il faut l'organiser maintenant, il faut parler maintenant. Donc on s'en est bien rendu compte à l'écoute des jeunes que ça n'était pas forcément évident de formuler des projets, que c'était à peu près les mêmes qui revenaient chaque année, ce fameux Koh-Lanta parcours aventure qui permet de faire de l'escalade, de l'acrobranche. Et puis, on l'a entendu, donc il y aura un projet voilier. Alors, bien sûr, nous sommes arrivés en juin, donc ils ont dû choisir leurs activités. Mais je ne suis au courant de rien. C'était un reportage, en tout cas, dans le quartier de la cité Gély à Montpellier, hein, sur les activités de l'APIEU. L'APIEU est l'une des associations qui permet aux enfants donc, de faire des activités qu'ils ne pourraient envisager avec leur famille. Alors, à noter que ces activités sont financées, mais l'association demande toujours une petite participation aux parents. Et puis comme l'accent était parfois chantant, hein, on l'a entendu, et qu'il était question de voile et de pétanque, vous avez pu entendre des extraits de Fanny, le film de Marcel Pagnol. Dans quelques instants, on va se retrouver cette fois-ci avec la maire de Montpellier en visite dans le quartier Mausson.
heart's content. I say that to please her. Happiness is on her face. It's no man that greets her. Only my disgrace to admit I need her. But we all fall from grace. Dust me down and keep her.
C'est l'émission EPRA et c'était Bonobo, le DJ compositeur anglais, avec un doux featuring. Nous passons donc eh bien, au deuxième sujet de cette émission. C'était jeudi matin dernier. Hélène Mandrou, maire de Montpellier, a souhaité visiter le quartier Mausson, quartier populaire de Montpellier, bâti dans les années 60. Une visite avec un parcours bien défini. Nous l'avons suivi une matinée qui a commencé donc à 10h du matin dans les locaux de l'association Défi, la plus grosse association du quartier, qui s'occupe d'emploi, d'insertion, de formation et d'animation. La visite s'est prolongée à l'association Tinignan, qui permet aux femmes, la plupart maghrébines, apprendre le français et de faire quelques sorties culturelles ou sportives. Et enfin, eh bien, la matinée s'achevait dans les locaux de Solidarité Dom Tom, qui a l'avantage le jeudi de préparer un repas pour les autres associations du quartier. Alors cette visite se prolongeait l'après-midi avec la visite, du lac des Garrigues, un espace lacustre artificiel devenu base nautique qui permet aux jeunes du quartier de faire voile et kayak. Alors autant dire que eh bien, ce parcours fut éclair, mené tambour battant par une maire qui connaît bien les acteurs de ce quartier concerné par le réaménagement urbain, puisqu'Hélène Mandrou en est à son deuxième mandat. Nous n'avons pas pu laisser traîner le micro à chaque instant, notamment dans les locaux de la première association, qui fera d'ailleurs l'objet d'un prochain reportage. Alors, il faisait beau ce jeudi matin, la maire coupait son téléphone portable avant d'entrer rencontrer l'équipe de l'association Défi.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour Hélène Mandrou.
Bonjour.
Vous êtes en visite aujourd'hui dans le quartier Payade, quartier de Montpellier. Alors pourquoi, quel est le sens de cette visite ce matin?
C'est pas un sens particulier, c'est-à-dire que le maire que je suis, aujourd'hui je suis en train effectivement d'aller, tout d'abord je commence par le quartier de la Payade, et puis je vais certainement faire la tournée des 7 quartiers. C'est une démarche que je fais 2 fois par an en général, à la rentrée et puis après, la période avant les vacances. Donc c'est une façon pour moi d'aller directement sur le terrain et de voir un petit peu de visu, de sentir un petit peu le quartier. En plus, c'est un quartier que je connais très bien. Et donc je suis tout à fait à même de voir comment ça évolue, comment ça bouge, puis aussi rencontrer les gens. Et je pense qu'un maire se doit effectivement d'être au plus près de ses concitoyens, et c'est ce que je fais ce matin.
Alors il y a une multitude d'associations dans ce quartier, très populaire. Comment s'est opéré le choix finalement des associations que vous visitez?
Alors effectivement il y a beaucoup d'associations, et ça je peux vous dire que c'est une richesse du quartier. Si je me réfère, vous savez, quand il y avait eu les quartiers fin 2003, il y a eu beaucoup de quartiers comme ça dans toutes les périphéries des grandes villes, qui avaient effectivement, où il y avait eu des... Vous savez, brûlé, où les jeunes s'étaient manifestés dans la rue et tout ça. Ce quartier ici, Montpellier, c'est vrai qu'il y avait moins d'événements douloureux que dans d'autres villes, justement grâce à ce tissu associatif, parce que ce tissu associatif, c'est du lien social, et ça permet, dans des quartiers qu'on appelle parfois en difficulté, ça permet justement de tisser du lien social et d'éviter que parfois ça aille un peu trop mal. Donc je crois que c'est important pour ça de venir dans les quartiers, de voir comment ça évolue. Ce sont des quartiers ici, vous savez, qui sont dans les dossiers en rue. Et donc c'est ça aussi, c'est une démarche de rénovation urbaine, c'est-à-dire que dans une ville, il n'y a pas uniquement les quartiers qu'on construit, les beaux quartiers, les nouveaux quartiers, mais il faut surtout se préoccuper, c'est très important, de rénovation urbaine, de réhabilitation urbaine, et c'est notamment ce quartier qui est concerné.
Quartier Mausson, auparavant quartier Payade, qui a vu le jour dans les années 60, et comme beaucoup de quartiers en France, bâti ces années-là, qui a très mal vieilli, nous étions au pied de la tour d'Assas, la plus grande tour habitée de Languedoc-Roussillon, avec ses 22 étages, une tour essentiellement habitée par des immigrés marocains. Alors pas étonnant de retrouver des femmes, la plupart marocaines, dans les locaux de l'association Tin Inan, qui s'occupe d'alphabétisation et qui s'occupe aussi de proposer des activités à ces femmes très demandeuses.
Madame le maire, qui la connaissait? Qui connaissait Madame le maire?
Je connais Madame
le maire.
Ah, tu connais Madame?
Oui, oui. Je connais à la mosquée là-bas.
Ah, tu l'as vue à la mosquée? Dis-moi. Celles qui ne veulent pas être sur la photo, mettez-vous de dos. S'il y a des photos, mettez-vous de dos. Voilà, mets-toi là, tu ne seras pas sur la photo.
Parce qu'il prendra là, donc toi tu seras de dos, on ne te verra pas.
Non, ne les dérangez pas, ne faites pas de photos. Ne les dérangez pas, s'il vous plaît, merci.
Non, mais quelquefois on aime bien aussi.
Je respecte les gens, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles, ne faites pas de photos. Un point, c'est tout. Voilà.
Merci.
Ah, mais alors?
Il y aurait une table... Hélène Mandrou aurait frappé de points, donc il ne fallait pas contrarier Hélène Mandrou ce matin-là. Le photographe qui travaille pour le magazine municipal s'est donc exécuté et n'a pas pris de photos. Fort heureusement, le micro a été autorisé pour la visite de Tin Inan.
Tout du Maroc?
Oui.
Tunisie?
D'accord. Nous, on est du Maroc.
Du sud du Maroc? Vous êtes du sud?
Oui.
Parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de...
Voilà.
Tinerère.
Moi, c'est Tinerère.
De Rachidia. Oui, c'est la communauté marocaine la plus importante.
Rachidia.
Il y a de Rachidia, oui.
Oui, je suis de Rachidia.
Il y a beaucoup de Rachidia. Et tu es d'où, de Tunis, toi? Tunis même?
Djerba.
Djerba. Et tu n'es pas resté à Djerba? C'est magnifique, Djerba. Là où je suis allée, c'est une fois que ce qui m'a le plus impressionné, c'est El Djem. Ah, écoute, El Djem, quand tu découvres nos arènes de Nîmes à côté, c'est. Qu'est-ce que c'est? Vous avez des arènes romaines à El Djem, c'est extraordinaire. Ces arènes, elles sont. Les arènes de Nîmes à côté, c'est rien. Bon, ben, je vous laisse travailler. C'est bien. Au revoir.
Merci. Et là, c'est quoi ces beaux plantes?
Là, ces plantes, c'est les espaces verts qui, quand ils vident les serres, nous portent les plantes et on les distribue aux dames.
Voilà. Vous allez leur distribuer les plantes?
Mais ça y est, elles en ont déjà pris, elles les prennent, elles les mettent sur leur balcon. Et ça fait opération balcon fleuri. C'est déjà 3 ans. Alors ça, c'est l'exposition qui avait été faite pour la caravane de l'égalité.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est un projet qui a été fait avec les enfants du classe et leur maman. suite à l'exposition de Pardon, on a eu l'idée de leur faire... Et donc, c'est les mamans et les enfants qui ont photographié leur quotidien.
D'accord. C'est pas de Pardon qui est venu faire des photos.
Et non. Nous n'en avions pas les moyens, mais en fait, on a été agréablement surpris de voir le résultat, oui.
Tout à fait.
Nous avons 200 inscrites, même plus. Hier, on a commencé les inscriptions pour l'année 2010. Le premier matin, on a eu 50 inscriptions déjà. Donc, je ne sais pas où on va les mettre. Donc, on a ces deux salles.
Oui.
Une autre salle à Arc-en-Ciel qu'on occupe des fois avec le GFN. Et à la salle Louis Feuillade, la salle informatique que M. Florence nous avait aménagée. Le seul problème actuellement, c'est que notre adulte relais, qui est quand même le pilier de l'association, puisque c'est elle qui est berbère, arabophone et tout, et qui est connue, ça fait 25 ans qu'elle travaille sur la paillade, et son contrat s'arrête, oui. Elle était, quand j'étais enseignante, elle travaillait déjà avec l'école et elle travaillait avec nous et avec les mères qui arrivaient. Avec Latifa.
Latifa,
oui, oui. Et son contrat s'arrête en octobre, ouais. Donc il va falloir voir comment on peut pérenniser ce contrat. Quand on recevait les familles rejoignantes, elle faisait les accueils des familles. Donc elle allait dans les familles faire l'accueil. Puis on a travaillé avec l'école quand j'étais à l'école. Et là, elle continue sur le quartier, mais c'est quelqu'un qui est vraiment... Oui, oui, oui. D'ailleurs, sur le quartier du Petit Bar aussi, parce qu'elle est connue comme elle faisait les accueils dans tout. Et ça, c'est un atelier dessin qu'on fait tous les ans avec une ancienne collègue qui est à la retraite également. Heureusement que l'enseignement fournit des bénévoles.
Enfin.
C'est Christiane Cosse, la présidente de l'association Tininan, que nous entendions et à qui nous avons demandé quelques éclaircissements.
Tininan, c'est une association qui travaille avec les femmes du quartier bas de la Mosson, essentiellement, et qui essaie de les rendre autonomes. Autonomes par rapport au langage, autonomes tout court, qui les fait sortir de chez elles.
Alors, par quel biais ?
Elles viennent apprendre le français, donc elles viennent deux fois par semaine, ou trois, selon leur niveau. Et celles qui sont lectrices viennent trois fois par semaine, parce qu'elles préparent un petit examen en fin d'année. Et nous avons actuellement sept groupes de niveau, et sept groupes d'alphabétisation.
Donc sept groupes, avec combien de femmes dans chaque groupe ?
Ça varie entre 18 et 25.
C'est plutôt bien.
C'est énorme. C'est énorme vu la grandeur des locaux, hein, puisque vous avez pu constater qu'on a deux petites salles, une autre salle, on essaie de s'agrandir. Il va falloir peut-être demander un autre local à Madame le maire. Elle est partie. Ça a été ultra rapide.
Alors, ces femmes, elles viennent donc apprendre le français.
Apprendre le français, mais ensuite on leur propose du sport. Donc elles ont la possibilité de faire du sport deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, avec des animateurs sportifs, un de municipal et un d'aérosport. Elles ont également la possibilité de faire du tai chi depuis deux ans. On travaille avec l'école du Tao. Ensuite, on organise des sorties familiales. Pendant les petites vacances, on organise des sorties familiales, on organise des accompagnements au théâtre. On travaille avec le théâtre La Vista. Ces sorties familiales ont pour but de faire partager des choses aux mères et aux enfants et pour qu'elles puissent ensuite le réinvestir dans la famille. C'est-à-dire, elles découvrent un coin pour aller pique-niquer, elles vont amener la famille pique-niquer. C'est une façon de faire participer la maman à la vie de la famille.
Donc l'objectif de l'association Tininan, c'est vraiment de faire sortir la femme. Parce qu'on a l'impression que dans cette communauté, elles sont essentiellement maghrébines, on le précise, sur le quartier de la Paillade. C'est vraiment une difficulté de les faire sortir, finalement.
Je pense qu'elles sont très demandeuses. Elles sont, dès qu'on leur propose une sortie, elles sont partantes. Mais là, il faut bien choisir les sorties parce qu'il faut être là aux horaires de sortie de classe. Sinon, après, elles sont très partantes pour faire un tas de choses, plus que ce qu'on croit.
Voilà, donc il y a des a priori quand même. Mais j'imagine qu'il y a eu de plus en plus de femmes, enfin qu'au début... Vous êtes présidente, je ne sais pas depuis combien de temps.
Depuis 10 ans.
Alors au début, il y a 10 ans, c'était comment ?
Il y a 10 ans, on a commencé, on avait un poste d'adulte relais et des bénévoles, essentiellement issus de l'enseignement. Ensuite, on a obtenu un second poste d'adulte relais, ce qui m'a permis de salarier une bénévole qui était là et qui s'investissait vraiment. Donc nous tournons à 2 salariés adultes relais, 1 salarié emploi aidé et 8 bénévoles.
Donc l'importance, hein, toujours des bénévoles qui oui, encadrent.
Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. Si on est une trop grosse association, pour gérer le personnel, ce n'est pas évident. Donc je pense qu'on est arrivé à la limite.
La maire a visité vos locaux. Enfin, vous avez une relation privilégiée avec la ville de Montpellier ou pas ?
Avec la ville de Montpellier, oui. D'ailleurs, c'est un peu grâce à la ville de Montpellier et au Conseil général qu'on a pu faire venir la caravane de l'égalité. Oui, on travaille en très bonne relation avec la mairie et le conseiller général.
Bonjour Dricia, ça va ?
Après ce dialogue avec la présidente de Tininan, nous avons posé quelques questions à Madame le maire sur les financements et les appels du pied des associations qu'elle a rencontrées. Alors voilà, vous avez rencontré la présidente de l'association Tinan qui a parlé de problèmes pour pérenniser les postes. Alors je suppose qu'elle ne l'a pas dit par hasard, cette phrase. Que peut faire la mairie, par exemple, dans ces cas-là ?
Là, écoutez, je pense que c'est une personne, d'après ce que je comprends, qui préside ça depuis plusieurs années, qui a un contrat. Ben, il faut regarder un contrat qui se termine prochainement. Je pense qu'il faut d'abord regarder avec qui elle a passé ce contrat. Je pense que ça doit être un contrat avec l'État. Donc je crois qu'il faut regarder comment pérenniser le contrat. Il faut d'abord a-t-il encore regardé d'abord les partenaires et quels sont les partenaires du contrat. Voilà, donc on va les aider, mais bon, on va regarder ça.
Alors on le sait que dans ces associations ici, il y a des financements qui viennent de l'État, effectivement, du Conseil général, voilà.
De la ville, ça vient de la... Enfin, ça vient de... C'est un polypartenariat, mais par exemple, c'est vrai que tout à l'heure, la première association, on s'est aperçu que l'État s'était désengagé et qu'au lieu d'avoir 400 jeunes qui viennent en formation, qui ont des difficultés scolaires, ils avaient de quoi en financer pour en accueillir 100. Donc là aussi, je pense que je vais intervenir. J'ai demandé au président de me faire un courrier pour m'expliquer cela. Et je vais intervenir auprès notamment d'un député qui est concerné, c'est-à-dire André Vézinet. Donc intervenir auprès des parlementaires pour voir pourquoi l'État s'est désengagé sur des postes pareils qui concernent l'éducation des enfants en difficulté.
Et c'est toujours une difficulté, j'imagine, pour les maires des villes de donner... un budget à une association plutôt qu'à une autre, surtout que les budgets ont tendance à régresser, on le voit pour la culture. Comment s'opèrent les choix ?
Écoutez, effectivement, on sait très bien que les dotations ne vont pas aller en s'améliorant. Du reste, des villes comme la nôtre, où nous sommes une ville en croissance, on est pénalisé parce que les dotations, effectivement, ne tiennent pas toujours compte de la population réelle. Il y a eu un retard qui a été enfin peut-être un petit peu rattrapé, mais à ce jour, l'État, s'il y a un retard cumulé de dotations, me doit pratiquement 60 millions d'euros, avec les années, enfin, depuis 2002. Et on nous annonce que l'année prochaine, il y aura encore un gel des dotations. Alors effectivement, on est pénalisé. Je crois que le choix dans chaque... tous mes élus dans chaque commission regardent notamment ce que font les associations et notamment dans des quartiers comme celui-ci. Je pense que les associations qui travaillent pour améliorer et notamment aider les jeunes en difficulté, bien évidemment, on les soutient.
Nous avons ensuite laissé Madame le maire déambuler dans le quartier à la recherche là d'une barrière défraîchie qu'il faudrait repeindre. Ailleurs, un coup de mastic à placer pour boucher une fuite. Et nous avons devancé la délégation composée de l'adjointe au quartier, d'un chargé de mission sur ce quartier pour rencontrer le directeur de Solidarité Dom-Tom, puisque c'est là qu'ils allaient ensuite.
Bon, je me présente, Jean-Claude Senneville, je suis directeur de l'association Solidarité Dom-Tom.
Solidarité Dom-Tom qui va recevoir la visite de Madame le maire de Montpellier. Elle a l'habitude de venir vous voir, vous avez des rapports avec la mairie ?
Oui, on a de bons rapports avec la mairie nous a toujours soutenus, la mairie a toujours mené des actions solidaires, donc on a toujours été là. Je me rappelle, il y a 3 ans, Madame le maire est venue avec son cabinet, dès qu'elle vient en visite sur le quartier, elle passe toujours par l'association et c'est toujours agréable de l'accueillir.
Alors, on va peut-être présenter l'association. Que fait Solidarité Dom-Tom ?
Solidarité Dom-Tom, à la base, c'est une association qui œuvre pour tout ce qui est insertion sociale, professionnelle et culturelle. Donc, c'est vrai qu'à la base, on était là pour accueillir les primo-arrivants des DOM, pour les aider à s'intégrer un petit peu dans le tissu, héroletaire, voire languedocien. Ensuite, chemin faisant, On ne pouvait pas se permettre d'accueillir que les Domiens, bien entendu, soutenus par la mairie, le conseil général et toutes les collectivités. Donc Solidarité Dom Tom, au bout de plus de 15 ans d'existence, accueille un petit peu tout le monde. Donc déjà au niveau de nos... Bon, pour présenter l'association, on est quand même 9 salariés. Moi, je suis le directeur, j'ai mon assistant de direction, 3 travailleurs sociaux, 2 animatrices couture et épicerie, une hôtesse d'accueil, sans oublier une trentaine de bénévoles qui font le dynamisme de l'association. Voilà. Que dire de plus ? Nous, à côté de toutes nos activités, c'est vrai qu'on est, on est ouvert sur une amplitude qui est hebdomadaire. Lundi, en général, c'est lundi matin, comme dans toutes les structures, c'est la réunion du perso. L'après-midi, ouverture au public pour l'épicerie, pour tout ce qui accueille du public. Le mardi, le matin, c'est toujours pareil. L'après-midi, c'est plus tout ce qui est épicerie, parce qu'on a un apport avec la banque alimentaire qui nous permet à même d'accompagner les gens dans leur tout ce qui est soutien alimentaire, ce qui est nécessaire. C'est le premier besoin de Maslow, se nourrir. Donc, ce qui est important.
Il faut être adhérent de votre association pour venir à la banque alimentaire ?
Pas forcément. En fait, ce qu'il y a, c'est que qui dit soutien alimentaire dit un suivi. On ne peut pas se permettre de dire, un tel. Mais il arrive qu'on peut parler de 2 types de prestations au niveau de l'épicerie. Les personnes qui sont évaluées en début d'année, qu'ils ont droit, en fonction des critères bien déterminés par rapport à une évaluation qui est faite par les travailleurs sociaux, c'est-à-dire une différence simple entre les recettes et les dépenses, on établit un reste à vivre qui permet à ces personnes-là de pouvoir avoir accès à l'épicerie. Deuxième volet, c'est le dépannage alimentaire. On travaille en étroite collaboration avec tout ce qui est assistante sociale du département. Ils nous orientent des gens qui sont dans le besoin, un besoin imminent. Donc, on tient à cœur à les dépanner. C'est ce qu'on appelle les colis alimentaires. Ils ne paient pas. Voilà. Donc, ça, c'est le volet épicerie. À côté de ça, on a l'atelier cuisine du jeudi qui permet de recevoir du monde pour faire des bons petits plats du monde entier. Je dirais pas uniquement d'hommes tomiens parce qu'on a parmi nos bénévoles des gens qui viennent de toutes les contrées. Ile Maurice, Madagascar, l'Afrique, le Maghreb dans son immensité. Donc, ce qui fait que cette petite table d'hôtes, c'est une sorte de cuisine du monde qu'on met à portée de tout à chacun sur le quartier. Donc, c'est souvent les associations qui viennent déjeuner chez nous le jeudi, qui sont ravies et ça permet de montrer l'ouverture. Il faut dire que la cuisine est un élément fédérateur, il faut le dire. Donc, ça permet de contribuer un petit peu au dynamisme de l'association. Sans oublier, on a un petit atelier braderie, on a quand même une permanence juridique 2 fois dans le mois. On a l'atelier informatique qui permet à tout à chacun de venir calmement s'initier à tout ce qui est informatique. À côté de tous ces volets de services et d'ateliers, je mettrai un point d'orgue aussi à signaler qu'on fait pas mal de sorties, tout ce qui est sorties culturelles. Sorties pour rompre un peu avec l'isolement, pour faire en sorte que les gens puissent sortent un petit peu de l'association et puissent voir un peu l'extérieur et puis aussi contribuer à l'épanouissement de tout à chacun. Voilà, en gros. Bon, je peux préciser aussi, pendant que je vous ai sous la main, entre guillemets, c'est vrai que chaque année, on fait des manifestations quand même qui sont phares. Notamment la fête des cuisinières, au mois de mars, qui est une manifestation qui rassemble quand même 600 personnes à la salle des rencontres de la mairie. Donc, chaque année, les gens viennent pour goûter les petits plats du monde. Ensuite, on a l'abolition de l'esclavage auquel on contribue. Et puis ensuite, on a, après l'été, c'est traditionnel, Antigone des associations, toutes les festivités où le monde associatif est convié. Et pour finir, on finit en beauté, en général, avec notre arbre de Noël, des adhérents, et puis souvent avec une belle fête de fin d'année. Et ensuite, on attaque la nouvelle année. Voilà en gros résumé les activités culturelles qu'on fait.
Alors, Solidarité Dom Tom, donc on l'a bien compris, finalement, ça ne concerne plus seulement les Dom Tom.
Voilà, ça, c'est vrai qu'on a voulu garder quelque part, et même en poussant plus un petit peu la réflexion, depuis 5 ou 6 ans, voire plus, la dénomination même a changé, c'est même plus Dom Tom, on dit Dom Rom. Eh oui, au niveau de la modification des collectivités, maintenant, c'est département d'outre-mer et région d'outre-mer. On a voulu garder cette entité d'Homme-Tom parce que ça sonne mieux. Et puis, c'est vrai que, bon, on a beau changer de syllogisme, comme on dit, d'intitulé, mais les départements et territoires d'outre-mer restent tels quels. Toujours avec la convivialité, l'accueil, et puis on est là. On essaie de s'impliquer au maximum dans la langue de Roussillon, essayer d'intégrer notre culture, essayer de mélanger cette culture qui est intéressante et de faire partager aux autres.
Voilà. Alors j'imagine que vous êtes comme un phare hein, quand même pour tous les gens qui viennent Guadeloupe, Martinique et qui viennent en métropole, ici à Montpellier, se disent bon ben je vais aller vers ma communauté culturelle.
Voilà. Entre guillemets. En général c'est vrai qu'on n'est pas les seuls. C'est vrai que au niveau de la région, quelqu'un qui débarque dans la région, qui va voir la mairie, on lui dit de suite d'aller voir Solidarité Dom Tom parce qu'on a je dirais un atout, c'est qu'on a le volet social par rapport aux autres cultures ultramarines. Quand je dis ultramarines, c'est tout ce qui est association domtomienne. C'est vrai que c'est des des associations qui fonctionnent souvent avec des bénévoles. On fonctionne en partenariat avec elles, mais celle qui a l'ossature la plus ou moins solide avec des salariés pour pouvoir accueillir de façon sociale et aider, c'est Solidarité Dom-Tom. N'empêche qu'on est content d'avoir les autres associations pour pouvoir se fédérer, par exemple, sur des points culturels qui peuvent être intéressants. Tout le monde sait que l'union, l'adage, on ne peut pas y déroger, l'union fait la force, et que Solidarité Dom-Tom a cette envergure, ce rayonnement un peu sur les Doms, Tom, Dom-Rom, mais je tiens à le préciser, en ayant avec nous les Calédoniens, les Marais, les Tahitiens, les Malgaches, les Mauriciens, ça fait rejaillir un petit peu le côté multiculturalité qu'on a et puis ce côté ultramarin que les gens doivent apprendre à connaître et à découvrir parce que c'est une richesse.
Voilà, ainsi s'achève le reportage donc qui concernait cette visite du maire de Montpellier, Hélène Mandrou, dans le quartier Mausson. C'était jeudi dernier, donc c'était l'occasion bien de parler un peu avec Madame le maire, mais aussi de rencontrer les associations qui œuvrent au quotidien dans ce quartier. À noter donc qu'il n'y a pas eu de son concernant l'association Défi 34, qui fera l'objet d'un reportage très particulier parce que c'est une des plus grosses associations du quartier et que voilà, elle est en proie à des problèmes parce qu'elle a beaucoup moins de financement de l'État. Ce n'est pas du tout la mairie qui est en cause, mais ce sont les services de l'État. Auparavant, elle suivait 400 personnes pour formation, réinsertion, et maintenant, elles ne peuvent en suivre que 200, ce qui n'est pas négligeable. Donc, c'est deux fois moins de personnes à suivre. Donc, on aura un entretien avant tout avec son directeur, qui a beaucoup de choses à dire aussi sur le quartier. Et puis, c'était tout ce que je voulais dire, si ce n'est que je l'avais déjà dit en introduction. Donc, Hélène Mandrou continuait l'après-midi aussi, et elle est du côté du lac des Garrigues. Voilà, un espace de loisirs pour les jeunes du quartier. Ainsi s'achève l'émission EPRA de ce lundi 21 juin. Je remercie Manu à la technique. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine. Et si c'est la semaine prochaine, eh bien, il y aura un reportage sur Défi 34 et puis aussi sans doute un portrait de Kader Atou, le chorégraphe hip-hop qui est présent ici à Montpellier et qui présente sa dernière pièce chorégraphique dans l'ancien lycée Mendès France. Si je ne me trompe pas, c'est à partir de mercredi. Et donc, théoriquement, je vais assister aux petites répétitions cet après-midi et on fera un petit portrait de ce chorégraphe qui a toujours navigué entre les frontières et puis entre les cultures. Voilà. Ainsi s'achève l'émission EPRA avec un dernier morceau, ce sera « Pavement ».
They tend to wiggle when they walk. The infrastructure rots, and the owners hate the jocks with their agents and their dates. If the signature's a check,
you'll just have to wait.
And we're counting up the instants that we save. Tired nation so depraved. From the cheap seats, see us wave to the camera. It took a giant ramrod to raise the demon settlement. But hi-ho, silver ride. Kaiser has assists, and I'm a blank one. List the qualms you have, and if they.
drown.